explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Elles peuvent être creuses, plates ou perlières. Les huîtres ont de quoi en intéresser plus d'un, les gastronomes, les joailliers, mais aussi les scientifiques. Et l'intérêt des hommes pour ce mollusque ne date pas d'hier. Nos ancêtres préhistoriques pratiquaient déjà l'ostréiculture, mais mangeaient-ils les mêmes huîtres que nous ? D'où viennent les huîtres que nous cultivons et que nous consommons aujourd'hui en France ? Quelles menaces pèsent sur elles ? Et qu'est-ce que les huîtres de Polynésie ont de plus que celles de la métropole pour produire ces superbes perles noires ? Aujourd'hui, nous partons bivouaquer dans les élevages ostréicoles des régions côtières, de la Normandie à la Corse, jusqu'aux fermes perlicoles des atolls polynésiens perdus dans le Pacifique.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors si ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, Marie Lécroard et Jean Proux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Marie Lécroard, vous êtes océanographe de formation, aujourd'hui journaliste, spécialiste des questions de conservation et de biodiversité. Vous êtes l'auteur du livre « Les huîtres, 60 clés pour comprendre » paru chez Quae. Jean Proux, vous êtes chercheur à l'IFREMER, biologiste, vous travaillez dans l'unité santé, génétique et microbiologie des mollusques. Vous avez notamment passé 4 ans en Polynésie à étudier les huîtres perlières, voilà qui nous promet de jolis voyages. Nous intéresserons aussi bien sûr aux huîtres que l'on cultive en métropole. Nous sommes en direct et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. Et puis à 17h, nous nous intéresserons à ces jeunes blogueurs voyageurs qui sont parvenus à faire de leur passion pour le voyage leur métier. 3 de ces blog trotteurs seront avec nous. Ils nous raconteront leur voyage et les coulisses de ce métier qui en fait rêver plus d'un. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Camille Bernard.
Écoute, on a les bottes, le chenal il est là, donc là on est en fait à l'établissement d'expédition. C'est-à-dire que la mer est par là-bas et on ramène les huîtres, elles sont affinées en éclair ici. Il y a plus d'une dizaine d'hectares de clair quand même, d'anciens marais salants autour, où on met les huîtres pour les faire verdir et les faire engraisser pour qu'elles soient belles et bonnes, quoi. On a commencé à les mettre fin août, début septembre, et puis on va continuer comme ça jusqu'à Noël. On termine l'affinage et pour celles qui seront vendues après Noël.
On attire de quoi ?
Des grosses ou des moins grosses ?
Nous étions sur l'île d'Oléron, rencontre avec Jean-Marc Chaillolo, ostréiculteur. C'était un extrait d'Interception 19 décembre 2010, diffusé sur France Inter. Quelle sorte d'huîtres cultive-t-on aujourd'hui sur le littoral de la France métropolitaine, Jean Proux ?
Alors en France, on cultive deux huîtres principalement.
Ouais.
Celle qui est la plus connue, c'est l'huître qu'on appelle l'huître creuse ou l'huître japonaise, hein, qui est une huître qui vit sur ce qu'on appelle sur les estrans, c'est-à-dire sur les zones qui sont découvertes à marée basse. Et puis on cultive aussi une autre huître qui s'appelle l'huître plate, qui était l'huître qui était ce qu'on appelle endémique de l'Europe, c'est-à-dire l'huître qui était depuis toujours en Europe et qui a un petit peu perdu de sa, qui a subi plusieurs maladies dans les années 20, puis après dans les années 50 et 60, mais qui est encore vendue surtout et puis dont la Bretagne s'est fait une spécialité.
C'est une longue histoire, hein, ces huîtres qui sont malades, qu'on remplace. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Marie Lécroard, les Français sont de gros consommateurs d'huîtres.
Ben oui, c'est les premiers consommateurs européens. C'est un peu une bizarrerie française. On en discutait avec Jean, comme les cuisses de grenouille ou les escargots, de consommer ces huîtres crues dans leurs coquilles. C'est notre truc.
C'est notre truc. Et cet engouement ne date pas d'hier, hein, Marie Lescoart, puisque les hommes préhistoriques mangeaient des huîtres. C'est ce qu'on apprend en lisant votre livre.
Ben oui, il y a des fouilles qui se poursuivent en France, près de Carnac, sur le site de Béguerville, qui date de 6000 ans avant Jésus-Christ, où les hommes préhistoriques ont laissé des coquilles que vraisemblablement ils ont consommées avant de les abandonner là. Et on connaît un site encore quelque part plus intéressant au fin fond de la Sibérie, de l'extrême-orient russe, et à 5000 à 3000 ans, les hommes préhistoriques élevaient les huîtres.
Oui, c'est-à-dire que ceux qui vivaient en France les consommaient sans forcément les élever, c'est ce que
voilà,
vous voulez
il
dire.
Voilà, ils les ramassaient, on pense qu'ils les ramassaient sur les strands.
Il y a des traces de ça, Jean Proulx ?
Alors en France, on a un petit peu de traces, c'est Catherine Dupont de l'Université de Rennes qui fait ces travaux-là.
Oui,
là,
tout à fait.
On n'a pas trop de traces, pourquoi ? Parce qu'il y a 15 000 ans, les glaciers ont fondu dans toute l'Europe,
ouais.
Et donc la mer est remontée de plus de 100 mètres. Donc quand la mer remonte de plus de 100 mètres, les torrents glaciaires sont devenus des rivières et des fleuves. Ça a déposé des sédiments et donc ça a enfoui toutes les traces qu'il pouvait y avoir avant, puisque la mer était à 35 km au large de l'île d'Oléron. Mmh. Par contre, au Portugal ou en Espagne, où il y a des grandes falaises, par exemple en Galice, là, effectivement, on a retrouvé des coquilles d'huîtres qui avaient été remontées par les gens qui les pêchaient et qui avaient remonté sur le haut des falaises et qui n'ont pas été recouvertes.
Mmh.
Donc là, on trouve effectivement des vestiges archéologiques.
Et elles sont intéressantes, hein, ces coquilles d'huîtres qui datent de plusieurs millénaires. Elles sont étudiées par les scientifiques, mais pas seulement par les biologistes, hein, Jean Proulx. Elles intéressent les archéologues, les géologues. Pour quelles raisons ?
Parce que d'abord, ce sont l'huître a la capacité d'avoir une coquille, donc ça laisse des traces. Il y a beaucoup d'animaux qui laissent aucune trace paléontologiquement. L'huître, on peut en trouver aussi de plus de 30 ou 40 millions d'années. Donc, c'est très très facile avec la coquille de retrouver le. Par exemple, on peut couper une coquille d'huître dans le sens de la largeur et voir le taux d'oxygène radioactif. Et donc, on peut retrouver les températures de l'époque rien qu'avec une coquille d'huître. Donc, une coquille d'huître, c'est on lit le temps avec les coquilles d'huîtres.
Oui, c'est ça. Ce sont, hein, Marie Lescroix, on le comprend en vous lisant, c'est une bande enregistreuse, un CD, je ne sais pas quel terme il faut employer. En tout cas, elles ont enregistré les conditions environnementales de leur époque.
Oui, et puis il y a d'autres choses qui intéressent les archéologues. C'est aussi la faune associée. La coquille procure un support à plein de bestioles. Donc, on peut avoir une idée de quelle faune il y avait dans la mer, sur le littoral. Au moment où l'huître s'est développée.
Donc quand on s'intéresse au paléoclimat, hein, au climat ancien, ça peut être utile d'aller consulter ces archives de la planète que sont les vieilles coquilles d'huîtres.
Tout à fait.
Alors il y a une énigme archéologique qui fait intervenir des huîtres, hein, vous en parlez dans votre livre, Marie Lescroix. C'est en Vendée, on a retrouvé des sortes de monticules, alors, il y en a même un qui faisait jusqu'à 10 mètres de haut, je crois, hein, des monticules de coquilles d'huîtres. Et pendant longtemps, les scientifiques se sont interrogés, hein, même depuis 4 siècles, mais d'où viennent ces monticules de coquilles d'huîtres? Il y en avait pour 5 milliards d'huîtres.
À Saint-Michel-en-Lerme, ouais, tout à fait, en Vendée. Il y a plusieurs sites connus, mais alors celui de Saint-Michel-en-Lerme est celui pour lequel moi j'ai retrouvé le plus de publications. Ils sont effectivement arrachés les cheveux pendant quelques siècles parce que les coquilles. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les coquilles étaient soudées, elles étaient refermées. Donc on s'est dit, elles n'ont pas été consommées. Mais finalement, il est possible que. À l'époque, on ne séparait pas les valves quand on ouvrait l'huître. Mmh. Donc, avec le poids des coquilles qu'ils ont mis au-dessus, elles se sont ressoudées. Ça a dû donner du fil à retordre aux scientifiques pendant pas mal de temps.
Jean Proulx, quelles ont été les hypothèses des scientifiques pour essayer d'expliquer la présence de ces 5 milliards de coquilles d'huîtres entassées là ?
Oh ben les hypothèses, toutes les plus folles, effectivement, parce que ça peut... Je ne sais pas exactement toutes les hypothèses qui ont été émises, mais la plus plausible, certainement, c'était effectivement le rivage n'était pas à cet endroit-là à l'époque. Je vous ai dit que la mer avait monté de 100 mètres, donc on sait qu'à peu près en l'an 1000, parce que c'est pas vraiment de l'archéologie, c'est plutôt de l'histoire, l'an 1000, en l'an 1000, le rivage était à cet endroit-là. Et donc, comme l'huître plate, qui était l'huître qui était pêchée avant, elle était draguée, elle était sous la ligne de basse mer, donc il fallait ramener les huîtres à terre pour pouvoir les ouvrir, comme dit Marie, avec un petit couteau sur le devant de l'huître pour juste prendre la chair, et après, comme ça devait être très très mécanique, de laisser toutes les coquilles à l'abandon. Ouais. Donc on est arrivé à cette conclusion-là. En regardant aussi en Croatie, les gens ouvrent encore les huîtres plates par le devant, comme ça, c'est pas commun.
Ouais. Sans sectionner, les coquilles entre elles.
Avant de comprendre ça, quand même, on a imaginé des raz-de-marée gigantesques qui avaient apporté ces huîtres-là. On a proposé des explications, on a pensé à des rites cultuels à base de coquilles d'huîtres. Enfin, on a imaginé les choses les plus fortes. folle, en fait.
Au vu de la quantité, il était impossible que toutes ces huîtres soient consommées sur place, mais l'explication est beaucoup plus simple que ça, c'est que c'était un haut lieu de l'exportation d'huîtres vers l'Europe, ces sites.
Ouais, au Moyen-Âge, c'était le début des grandes villes, hein, donc il fallait emmener de la nourriture à ces villes-là, et donc on ouvrait les huîtres, on les conservait dans de la saumure, ou on les cuisinait pour certaines. Alors le raz-de-marée, ça tenait pas, parce que dès qu'on a trouvé des clous, des morceaux de sandales dans les tas d'huîtres, on s'est dit que c'était plutôt des gens qui ouvraient ça sur le tas d'huîtres, et puis ils travaillaient comme ça.
Donc on les ouvrait, et ensuite on les acheminait, donc pour les conserver, vous avez dit dans la saumure, c'est ça? Ça se conserve bien de l'huître.
Absolument incroyable aujourd'hui, mais il y avait plusieurs manières de transporter les huîtres sur des centaines de kilomètres avant l'invention du camion frigorifique et même du camion tout court. Et l'un de ces moyens, c'était de les décoquiller et de le poisson, ce qu'on appelle le poisson, donc la chair de l'huître, on la mettait sur la paille et on la transportait comme ça. Mm-hmm. Donc on se demande dans quel état elle arrivait.
Oui, du coup, ça devait avoir un goût un peu différent des huîtres qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, on connaît au Vietnam, hein, vous avez la sauce huître, hein, vous pouvez l'utiliser. Donc il y a
C'est quoi alors la sauce huître du Vietnam, racontez?
Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est des huîtres qui sont mises dans de l'eau de mer et puis qui sont un petit peu laissées fermenter. Hein, donc en Polynésie, vous avez parlé de la Polynésie, il y a aussi des recettes comme ça de sauce un petit peu fermentée, qui permettent d'accompagner un certain nombre de mets. Donc on pense que c'était ça. Le nom du latin, c'était le garum aussi. Alors on ne sait pas s'il y avait du dedans, mais c'était une préparation qui accompagnait beaucoup de plats romains et qui était assez épicée.
Assez forte, à base de poisson fermenté, voilà. Ça devait envoyer quand même.
Donc on mangeait énormément d'huîtres à des époques très très lointaines, hein, finalement. C'est ce qu'on comprend. Vous écoutant, vous disiez, c'est une bizarrerie française, c'est français qui... C'est le fait de manger des huîtres crues qui est assez peut-être original, mais par contre, les huîtres, on en consomme depuis des centaines d'années.
Oui, avec des périodes durant lesquelles on ne trouve pas de traces écrites de cette consommation. Entre l'époque gallo-romaine et le Moyen-Âge, on ne trouve pas grand-chose concernant les huîtres. Arrête-moi si je me trompe, Jean, mais...
On a toujours un petit peu mangé, c'est vrai que c'était moins présent, mais vers l'an 300 à peu près, Ausone, qui était un poète bordelais, qui était, je crois, le précepteur d'un des derniers empereurs romains, il habitait à Trèves, en Belgique, je crois que c'est en Belgique maintenant, Trèves. Et donc là, il mangeait des huîtres. Alors on peut imaginer qu'Ausone, qui était de Bordeaux et Toulouse, et qui a tant fait de poèmes sur les huîtres, et puis emporter les huîtres aussi à Trèves, en plein milieu de l'Allemagne. On trouve en Autriche, dans le sud de l'Allemagne, en Belgique, on trouve à Poitiers, on trouve à Lyon, des restes de banquets d'huîtres, mais là, d'huîtres fraîches. Là, elles étaient carrément, c'est-à-dire que les Romains, alors c'est peut-être qu'elle a disparu après un peu au Moyen-Âge, mais les Romains savaient emmener des huîtres fraîches. Par exemple, à Poitiers, on a retrouvé des petits bacs, comme ce qu'on appelait des gorgeoirs pour les ostréiculteurs, des petits bacs où alors ils amenaient de l'eau de mer, où ils reconstituaient de l'eau avec du sel pour garder leurs huîtres,
dans des
d'aquarium. Ouais. Donc les Romains savaient très très bien faire ça et adoraient les huîtres crues. D'ailleurs, je parlais d'Ausone, mais Pline ou Tite-Live donnent des qualifications aux huîtres, les huîtres d'Écosse, les huîtres des Dardanelles, les huîtres du Médoc, les huîtres de Saint-Onge, les huîtres d'Espagne, avaient toutes des qualités particulières.
Nos ancêtres mangeaient beaucoup d'huîtres, mais étaient-ce les mêmes huîtres que celles que nous mangeons aujourd'hui? Pas tout à fait, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec nos invités. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Marée haute du ressentiment, visage émacié sur la digue. Que faire de sa colère? Que faire de sa fatigue? Fable validée sous serment, marée haute. Tu y croyais comme l'enfant peut croire. À qui la faute? Alors va pour la partager, mais en être accablé à d'autres. Marée haute. Traîtrise des roses, marée haute. Chemise noire, délavée. Quelle idée aussi de lutter quand le vent va d'un seul côté. Regard perdu sur la digue, les récifs donnent sans compter. Naufrage, naufrage, ton âge t'y a préparé. Naufrage, combien pour t'y pousser. Traîtrise des roses, marée haute, commençait déjà de trembler. Largué, mais c'était pas ta faute. Lesté de plomb qui peut flotter. Marée haute. Visage tendu sur la digue et mains à paume retournée. Faut-il alors dur le confier? Le sacrifier. Aux marées brunes, marées hautes, par le naufrage soulevé.
C'était Marée Haute, Valparaiso et Dominica sur France Inter, le temps d'un bivouac.
La véritable histoire de l'Aquitaine commence avec les Romains, qui, avec le général Publius Crassus, lieutenant de Jules César, hein, Jules César, la couronne, hein, rattache l'Aquitaine à Rome. La dite Aquitaine, et notamment Bordeaux, qu'on appelait à l'époque Burdigala, devient très vite un fief romain. Et c'est là où je veux en venir. Les Romains raffolaient particulièrement des huîtres, et notamment celle d'Arcachon, accompagnée d'un bon petit verre de Pinot.
Et Jean Proulx, notre spécialiste des huîtres de l'Ifémère, acquiesce. C'était Richard Anconina hein, qui pérorait sur les huîtres et l'Aquitaine dans le film Camping 2. Marie Lécroard, auteur de Les huîtres, 60 clés pour comprendre aux éditions Quai. Nos ancêtres mangeaient-ils, on l'a compris, ils mangeaient beaucoup d'huîtres, mais est-ce qu'ils mangeaient les mêmes huîtres que nous?
Mais non, pas du tout.
Ah bon?
À l'époque, chanceux que nous étions, nous ne mangeions que des huîtres plates. Moi, j'adore les huîtres plates. Mais malheureusement, elles ont été décimées par la surpêche et par des maladies. Si bien qu'en vers 1860, on s'est mis à chercher, enfin à regarder s'il n'y avait pas d'autres huîtres pour nous mettre sous la dent. Et les ostréiculteurs ont organisé des rotations avec le Portugal en bateau, pour ramener des huîtres creuses qu'il y avait là-bas, on ne sait comment, et les ramener vers l'estuaire de la Gironde. Et un de ces bateaux était en difficulté, en face de la Gironde, et a reçu l'ordre de balancer ses huîtres à la mer, ce qu'il a fait tout près de la côte. C'est comme ça que se sont implantées les premières huîtres dites portugaises. Mmh.
C'est un accident, Jean Proulx, qui a ensemencé les côtes françaises de ces huîtres creuses, alors ?
Oui, alors personnellement, j'y étais pas, mais c'est une légende qui dit ça. Quoi. Une légende, disons qu'il y a un type qui s'appelle Hector Patoiseau, qui effectivement faisait des rotations avec le Portugal pour aller chercher des huîtres. Alors, faut voir un petit peu le contexte. Dans les années 1860, il y a en même temps le développement du train, en même temps un fort développement économique en France, le développement des premières stations touristiques, dont genre Arcachon justement. Et donc, il y a une demande de consommation à la fois sur les côtes et en même temps dans les grandes villes comme Paris. Et donc, il y a besoin d'énormément d'huîtres et le début de l'ostréiculture se met en place et il n'y a toujours pas assez d'huîtres. Donc, on est obligé d'aller en chercher. Les Arcachonnais veulent aller en chercher au Portugal et c'est comme ça que les transferts d'huîtres du Portugal vers vers la France.
D'autant qu'apparemment, elles étaient en plus décimées par, je ne sais pas quel... C'était un parasite qui leur avait...
Alors, à ce moment-là, non, 1860, ça allait. Il y a toujours eu des maladies sur les coquillages, toujours, mais c'était encore sur l'huître plate. Alors, quand l'huître creuse est arrivée, la portugaise, on l'a implantée en Gironde, elle s'est très, très rapidement développée. C'est assez simple à comprendre maintenant pourquoi elle s'est développée, parce que l'huître creuse, elle est adaptée aux estrans, elle flotte bien sur la vase, elle s'enfouit pas, alors que l'huître plate était plutôt légèrement plus bas, sous la ligne de basse mer, ce qu'on appelle. Mmh. Et quand on a voulu faire l'élevage de l'huître plate, dans les années 60, on a remonté l'huître plate sur ces estrans-là, et elle est rentrée en concurrence avec l'huître creuse qui était arrivée. Ouais. Et donc elle a perdu la bataille. Ouais. Et donc des maladies se sont mises sur l'huître plate, du coup, plutôt dans les années 1920, puis après dans les années 1960.
Et oui.
Et elle-même, l'huître portugaise est tombée malade dans les années 1960-70.
C'est ça, elle tombe quand même régulièrement malade, attaquée par des parasites, et à chaque fois, il faut un peu renouveler tout le cheptel. Je ne sais pas si on parle de cheptel pour les huîtres, Jean Prou.
Si, oui, on peut parler de cheptel. Alors, renouveler, oui, c'était possible à l'époque, parce qu'on pouvait aller chercher l'huître au Portugal, une autre espèce, ou même si c'était l'espèce, et puis la ramener. Maintenant, je ne sais pas si les conventions internationales seraient... On pourrait aller chercher comme ça une huître dans un autre pays pour l'implanter.
En tout cas, une des dernières grandes crises de ce type, c'était en 1971.
Après la région de Marennes, c'est maintenant le bassin d'Arcachon, en France, qui est touché par une mystérieuse maladie qui s'attaque plus particulièrement aux huîtres portugaises. Dans les endroits les plus touchés, la mortalité atteindrait 70%. Jean Pézieux a demandé à un ostréiculteur les causes de cette mortalité.
On pense que ça vient même du Torrécanyon. On dit, chacun dit la sienne, enfin les services scientifiques n'ont pas encore trouvé tout à fait la cause de la mortalité qui ne sévit pas non seulement à Arcachon, qui a sévi l'année dernière en Bretagne, et qui cet hiver a sévi en Charente-Maritime, et qui continue ici.
Extrait d'Interactualité en 1971 sur France Inter. Donc là, on est typiquement, Jean Prou, dans l'un des accidents dont vous parliez, les huîtres ravagées par un parasite.
Oui, c'est ce qui était arrivé dans les années, entre les années, parce que ça vient progressivement entre les années 60, 62 et puis les années 70. Hein. Donc après, il y a deux choses qui se font. Il y a les scientifiques qui se mettent à chercher, d'abord à identifier la cause, identifier déjà la bactérie ou le virus ou le parasite qui va tuer. Et puis après, il y a les professionnels qui, eux, prennent souvent d'autres moyens et contournent le problème en disant, bon, on va aller chercher une autre espèce ailleurs. Donc là, c'était quelqu'un de la Charente-Maritime, M. Jarnot, qui est allé, qui faisait des voyages aux États-Unis, puis au Japon, et au Japon, qui a trouvé cette espèce, et qui a demandé une autorisation. On a encore les documents, une autorisation à l'administration pour importer un petit peu de ces huîtres-là, et on s'est aperçu que ces huîtres-là, qu'on les a ramenées à Marennes, elles ont poussé très, très, très rapidement. Donc ça a conquis les professionnels qui ont tout de suite remplacé l'huître portugaise par la japonaise.
Mais vous dites, on va les chercher à l'autre bout du monde. Il y a combien d'espèces d'huîtres comme ça à disposition aux quatre coins de la planète? Alors, Marie Lescora, il vous fait une politesse, il vous montre, alors allez-y Marie.
Je vais vous dire que le débat bat son plein, mais on a à peu près 20 genres, et c'est vrai que pour le bouquin, je me suis pas mal arraché les cheveux, parce que les scientifiques sont pas vraiment d'accord. Mais bon, on n'est pas à trois espèces près, donc on va dire une trentaine d'espèces d'huîtres plates et creuses.
Ouais. Elles sont toutes cultivées dans le monde, ces 30 espèces?
Non, je pense pas.
Non, il y en a 6 ou 7 de cultivées.
6 ou 7 majeurs, oui.
Bah, ce qui veut dire qu'on n'a pas tant de ça de cartouches de rechange. C'est-à-dire quand une huître disparaît, qu'on va en chercher une autre ailleurs, au bout de 6 ou 7 fois, on n'a plus rien. Hein.
Exactement.
D'autant qu'on a découvert récemment que la portugaise serait la même espèce que l'huître japonaise. C'est simplement qu'elles ne viennent pas tout à fait du même endroit. Donc le nombre de cartouches se réduit encore.
Donc elles sont susceptibles d'être attaquées par les mêmes parasites, c'est ce que vous voulez dire?
Ça, on ne sait pas vraiment.
Oui.
Oui.
Une suspicion.
Alors, les huîtres ont des parasites, mais elles n'ont pas que des parasites, elles ont aussi des prédateurs. Elles doivent faire face à de véritables machines de guerre. Quels sont les prédateurs? On se dit, elles sont bien protégées avec cette coquille qui nous donne tant de mal quand on veut les ouvrir à Noël ou quand on a envie de manger des huîtres. Finalement, quels sont les parasites Enfin, les prédateurs, pardon.
Les prédateurs, ça commence très jeune parce qu'elles sont protégées, mais avant d'être protégées, elles sont toutes minuscules et elles nagent en pleine eau. Elles peuvent se faire gober même par leur... par leurs parents huîtres, qui sont des filtreurs invétérés. Ouais.
Ça ressemble à quoi, Jean Prou, un bébé huître qui nage? Parce que nous, on a l'image de l'huître adulte, hein, avec sa coquille, mais là, apparemment, c'est bébé huître qui ne sont pas fixes.
L'huître, avant de se fixer, en gros, avant de se coller à un rocher et puis de passer toute sa vie, elle a 20 jours à peu près de liberté.
Ouais.
C'est entre la fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovocyte dans l'eau de mer, qui sont émises par les huîtres mâles et les huîtres femelles, évidemment. Il y a 20 jours de développement où elle a... Elle n'est pas du tout conformée comme ce qu'on le connaît après, comme on la voit quand on en mange. Elle a un petit vélum, c'est-à-dire un petit voile comme ça qui bouge et qui lui permet d'avancer, non pas trop, parce qu'il y a tellement de courant en Atlantique qu'elle n'a pas les moyens de lutter contre le courant, mais dans les lagons tropicaux, c'est le cas. Et puis au bout de 20 jours, elle a une coquille dès les premiers jours. Hein, et puis au bout de 20 jours, elle fait à peu près 0,2 mm, 200 microns. Et à ce moment-là, elle est assez lourde pour tomber sur le fond. Et si elle trouve quelque chose de dur, une petite coquille, un grain de sable, un morceau de bois, quelque chose qui lui va bien, elle va sortir un petit pied. Et elle va sentir un petit peu. Et si ça lui va bien, elle se colle.
Définitivement.
Elle se colle définitivement et elle se métamorphose. Il y a une métamorphose chez lui. C'est-à-dire qu'elle va, le pied va disparaître, le vélum va disparaître. Et puis va se développer les branchies qui vont lui permettre, puisqu'elle est fixée, de filtrer toute l'eau qui va passer à son alentour.
20 jours de liberté dans toute une vie, ça vit combien de temps une huître ?
Oh, ça peut vivre peut-être une 10 ou 15 ans, mais en général, elles sont mangées au bout de 3 ans.
Hein. Ouais. 10 ou 15 ans. On était sur les prédateurs avec vous, Marie Lécoire. Alors, quels sont les prédateurs de ces huîtres une fois qu'elles sont fixes et qu'elles peuvent être attaquées par n'importe quel prédateur?
Il y a d'horribles petits vers marins qui arrivent à rentrer dans les coquilles pour les manger de l'intérieur, bien à l'abri. Il y a des bigorneaux perceurs qui font un trou avec leur radula, qui est une espèce de râpe qui est aidée par des produits chimiques qui sécrètent ces bigorneaux pour dissoudre la coquille.
Les bigorneaux perceurs,
ouais.
C'est incroyable. Alors oui, il leur faut 4 jours pour parvenir à faire un petit trou dans la coquille, puis ensuite encore quelques jours pour digérer l'intérieur. C'est un supplice, ces bigorneaux perceurs. Ils sévissent beaucoup sur nos côtes, par exemple, Jean Prou?
Ah oui, ça affecte pas mal les élevages d'huîtres. Hein. Ouais. Les agriculteurs les pêchent, hein, c'est-à-dire qu'ils les ramassent quand ils les voient.
Ouais. Ça se mange ?
Non, ça se mange pas, non, je sais pas. D'accord. Ça ressemble un peu au bulot, mais ouais. Le bulot, ça se mange, les bigorneaux perceurs, je pense pas.
Autre prédateur, Marie...
Oui, ce qui est rageant, pardon, Daniel, ouais. À propos des bigorneaux perceurs, c'est qu'on en a introduit au moins une espèce avec les huîtres asiatiques, me semble-t-il. Donc, on en a plus maintenant.
Ah oui, on en a rajouté des prédateurs. L'étoile de mer aussi, les étoiles de mer arrivent à ouvrir les huîtres.
Ah ben là, c'est le film d'horreur, ouais. Elles l'enserrent avec tous leurs bras, elles écartent les deux valves et elles introduisent leur estomac dans l'huître pour pouvoir la digérer. Elle digérait à l'extérieur de l'étoile de mer elle-même.
Mais c'est si fort que ça, une étoile de mer? Nous, on serait incapable, avec les mains sans couteau, d'ouvrir comme ça les deux coquilles. Comment y arrivent-elles, les étoiles de mer?
C'est vrai que ce sont des étoiles de mer. Hein.
Oui,
c'est leur boulot, hein. Manger des huîtres.
Non, mais c'est...
Ah oui, ça doit durer un certain temps quand même, l'attraction exercée sur l'huître.
Il y a une sorte de bras de fer qui se joue.
Oui, c'est ça. Oui. Il faut savoir que l'huître... comme elle ne peut pas se déplacer, elle vit dans des zones extrêmement riches, donc ce sont les zones littorales. Donc il faut que la nourriture vienne à elle. Donc c'est pour ça qu'elle se met dans des zones très riches. Mais alors, du coup, il y a des prédateurs et donc la coquille leur sert bien. Mais il y a des gens qui contournent ça, quoi, des gens, des animaux qui contournent ça et qui permettent d'attaquer l'huître.
En tout cas, ça ne facilite pas la tâche des ostréiculteurs. Comment font-ils? Vous nous avez expliqué, voilà, avec ces petits naissins, les bébés d'huîtres, hein, quand ils nagent encore en pleine eau, les naissins. Comment les ostréiculteurs font-ils pour récupérer, on parle de captage, ces naissins? Allez-y, ils se font des politesses, personne ne répond. Allez-y.
Alors, c'est assez simple. Hein. Je pense que c'est dans les années 1850-1860 que les ostréiculteurs se sont aperçus qu'il y avait des morceaux de bois, par exemple, qui avaient des petites huîtres dessus. Avant, ils s'en sont rendus compte, mais en se disant, si on peut mettre des planchers, à l'époque c'était des planchers en bois dans le fond de la mer, et bien on va voir peut-être les huîtres se coller dessus. C'est ce qui est arrivé, c'est comme ça que... Alors après, c'est une question d'économie, hein, et puis de variabilité de chaque année du nombre de larves. Vous avez des années où il va y avoir beaucoup de petits Et puis donc, si vous mettez un collecteur, il va être couvert d'huîtres. Et puis il y a des années où ça sera, où il y aura moins d'huîtres. Donc après, c'est le agriculteur va mettre des collecteurs. Et puis c'est la surprise un petit peu. Donc ça se passe entre juillet et août. Là, en ce moment, par exemple, donc c'est la surprise du nombre de naissins qu'il va y avoir par collecteur. Et donc ça va leur faire trois ans plus tard le nombre à peu près d'huîtres qu'ils vont pouvoir vendre pour vous puissiez les manger à Noël.
Oui, tout un art. Alors nous, celles qu'on mange ont une taille relative. Voilà, hein, quoi, 10-12 cm pour une bonne huître. Mais ailleurs dans le monde, on peut trouver des huîtres absolument gigantesques, notamment au Japon. Fred Cheneau, des Nouveaux Explorateurs, en a fait l'expérience.
Oh, les huîtres! Oh là là! Voilà, ça c'est l'huître standard au Japon. C'est fabuleux, mais il y en a pour un régiment là-dedans. Mais j'ai jamais ouvert une huître pareille. Oh la vache, putain, mais c'est de la folie! Attends, alors moi qui suis un pro des huîtres, là je me tape la honte. Ah, victoire! Waouh, super! C'est un alien intérieur. Mais c'est carrément un steak. Oh là là. Allez, on est parti. Oh là là. C'est un peu gros tout ça, c'est affreux. Oh la vache. Oh, bon du monde. C'est très bon, hein. Brrr. Bon, ça va. J'ai jamais mangé une huître comme ça. Elle est délicieuse, hein, mais c'est tout moche.
Fred Cheneau, des Nouveaux Explorateurs, très démonstratif dans sa façon. Je ne suis pas sûr qu'il la mangeait comme il fallait, parce qu'il a essayé de la gober entière, cette huître. Et effectivement, elle est vraiment très très grosse, gigantesque. Donc même si le goût est bon, il était en train de s'étouffer avec. On l'avait reçu dans le temps d'un bivouac il y a quelques années, Fred Cheneau. Il est très rigolo. L'huître géante du Japon, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit comme ça, Jean-Prou?
Oui, elle est pas géante. C'est simplement que les Japonais, surtout dans l'île du Nord d'ailleurs, ils captent, ils mettent des collecteurs à l'eau, comme on a expliqué, comme en France. Mais il laisse pousser l'huître sur le collecteur. Il ne l'enlève pas en France, on l'enlève au bout d'un an à peu près, quand elle fait la taille d'une pièce de 1 euro, puis après on la cultive jusqu'à 3 ans. Là-bas, il la laisse pousser parce que, en fin de compte, il ne mange pas cette huître crue. Il la laisse pousser pour en faire de la chair qui congèle ou qui ressorte après. Donc, ils ont la nécessité de faire pousser l'huître le plus possible pour avoir plus de chair possible. Donc, il laisse les collecteurs à l'eau pendant 3-4 ans et ça fait, les huîtres qui sont sur l'extérieur sont énormes.
Mais ça veut dire que ces huîtres, si on les lève, vous nous avez dit tout à l'heure, ça peut vivre 10 ans, 15 ans une huître. Et ça grandit, ça s'arrête jamais de grandir une huître?
Alors si, c'est un petit peu comme tous les animaux, il y a une phase, à un moment donné, ça ne pousse plus. Hein. Donc une huître, ça peut faire à peu près, je sais pas, à peu près une vingtaine de centimètres au maximum. Après, ça ne pousserait plus. Hein. Avec l'âge, ça diminue, comme les hommes. Hein. On pousse très vite quand on est jeune, et puis après, ça va moins vite.
Allez, dans un instant, on va s'intéresser à d'autres huîtres, les huîtres perlières.
Elles sont magnifiques.
Merci.
Et si fascinantes. Est-ce que vous savez comment elles sont faites? C'est un tout petit grain de sable qui se dépose au fond d'une huître et qui devient parfois une perle précieuse et qui termine sa vie au cou d'une femme aussi ravissante que vous.
Je n'y avais jamais réfléchi.
Eh bien, vous auriez dû. Presque chaque fois, cela tue l'huître.
Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it, People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay. Their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Roe in shallow shows. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in love.
Ella Fitzgerald qui chantait Let's Do It sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Alors on se trouve sur la ferme Perlière, donc là on est sur un ponton donc avec des logements et on voit devant nous donc le faré greffe, donc faré en tahitien ça veut dire maison, hein. C'est la maison où on fait la greffe. Alors là, toute l'équipe de la ferme, ils sont une dizaine de personnes à peu près, ils sont en train de récolter les perles. Donc là en fait donc le greffeur, il récupère une nacre qui a déjà un coin pour l'entrouvrir, avec une pince il va l'écarter. Hop, elle n'est pas bonne, il n'y a pas de perles dedans, il la rejette. Hein. Voilà, donc là, il y a une perle, hein. Il va faire une incision sur la poche, il va retirer la perle, voilà. Alors là, il regarde la qualité de la perle.
Nous étions sur l'atoll de Hae en Polynésie française avec Dominique Buestel qui était chercheur à l'IFREMER qui est aujourd'hui à la retraite, que vous connaissez, hein, Jacques.
Bien sûr.
Ces huîtres qui produisent des perles, elles sont différentes des huîtres qui sont sur notre littoral métropolitain à nous. C'est vrai que moi quand j'étais petit et qu'il y avait des huîtres à table, je rêvais toujours de trouver une perle dans ces huîtres. Est-ce que j'avais une chance d'en trouver?
Vous auriez pu, mais d'ailleurs tous les ans dans les journaux, il y a un tel a trouvé une perle dans son huître de marraine. Mais ce sont de petites perles un peu ternes parce que la minéralisation se fait pas tout à fait de la même manière chez les huîtres de chez nous et chez les huîtres de Tahiti, chez les huîtres perlières.
D'accord.
D'ailleurs, ce ne sont que des lointaines cousines, en fait.
Elles sont très différentes, en fait, de nos huîtres, les huîtres perlières de Polynésie.
Oui, pour essayer de faire simple, les huîtres perlières de Polynésie sont plus proches des coquilles Saint-Jacques que de nos huîtres.
D'accord. Alors comment elle fabrique cette perle, ces huîtres perlières?
Alors d'abord, ce que vient de dire Marie, c'est important, c'est que c'est pas tout à fait la même forme du carbonate de calcium. Hein. Les coquilles d'huîtres sont faites, c'est du calcaire en fin de compte. Et pour les huîtres d'ici, c'est de la calcite. Donc, vous voyez, c'est assez terne, hein. C'est des fois un petit peu brillant à l'intérieur, mais c'est rare. Alors que pour les huîtres perlières, c'est de l'aragonite, et c'est quelque chose qui est très brillant, c'est ce qu'on appelle la nacre. Donc tous les bijoux qu'on dit en nacre, ce sont des bijoux qui sont faits avec des coquillages qui produisent de l'aragonite plutôt que de la calcite. C'est ce qui fait leur valeur, effectivement.
Vous êtes en train de me dire que les huîtres de métropole font des perles en calcaire, des perles de calcaire.
Exactement,
c'est ça. On comprend que c'est moins joli à monter en bijoux. Voilà.
Puis comme la température de l'eau est plus fraîche en Europe que à Tahiti, la calcification est plus lente. Donc ça fait des toutes petites perles. Alors, pour l'huître perlière, l'huître fait... L'huître perlière fait naturellement des perles, mais pas pour pour l'homme. Hein. Elle secrète en fin de compte une défense et puis elle fabrique autour d'un élément qui lui plaît pas de la nacre. Et donc les anciens avaient depuis tout le temps, surtout dans le golfe persique, ramassaient des quantités pharaoniques de d'huîtres perlières pour en extraire quelques perles, oui, qu'ils envoyaient à la cour du roi d'Espagne ou du roi de
France.
Parce
qu'à l'époque, avant de pouvoir les cultiver, on va voir dans un instant comment on les cultive, ces huîtres perlières, il fallait ouvrir 10 000 huîtres pour trouver une perle.
C'est à peu près le chiffre qu'on donne, oui. Donc c'était des massacres, je ne sais plus dans quel état des Émirats arabes, mais je pense que dans les années 1750 ou 1800, il y avait la moitié de la population qui était occupée à pêcher des huîtres et à les ouvrir. Donc c'était une... Alors évidemment, la coquille, en plus, on s'en servait pour faire des objets de décoration. Hein. Il y a toute une industrie, même en France, il y a eu une industrie du travail de la nacre.
Mais alors maintenant, on a mis au point un système de greffe pour mettre une petite bille à l'intérieur des huîtres et les faire travailler, en fait, pour qu'elle fasse une jolie perle autour de cette bille. C'est très minutieux, hein. C'est vraiment chirurgical cette opération. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes avec le biologiste Jean-Claude Cochard, chercheur à l'IFREMER, qui décrit le travail minutieux du greffeur d'huîtres perlières.
Voilà, elle prend une greffe, une huître dans laquelle se trouve déjà une pince. Elle a écarté les branchies, elle incise la poche perlière, elle attrape un nucléus qu'elle va mettre dans l'incision. Maintenant, elle pique un greffon sur la planchette et l'introduit dans la blessure et elle va pousser le greffon au fond de l'incision et c'est terminé. Le greffon, quand il est placé contre le nucléus, qui est aussi de la nacre, la première chose qu'il fait, c'est réparer la blessure, c'est-à-dire se développer pour recouvrir l'ensemble du nucléus. Donc il va créer un sac autour de ce nucléus et commencer son travail de dépôt de nacre. Au fil du temps, l'épaisseur de nacre va devenir de plus en plus épaisse et on va avoir à la fin cette jolie chose qu'on appelle la perle.
Jean Proust, c'est vraiment une opération, je le disais, chirurgicale, extrêmement minutieuse. Il faut une huître donneuse, une huître receveuse. Il faut ce nucléus qui est cette espèce de petite bille qu'on va introduire à l'intérieur de l'huître. Et évidemment, chaque chose se fait à la main. Hein. Il n'est pas question d'industrialiser ça ou de faire ça par des robots.
Ah oui, c'est un travail, c'est très impressionnant à regarder. Hein. Donc il y a des spécialistes, hein. C'est-à-dire que les greffeurs polynésiens ou les greffeurs asiatiques, il y a beaucoup de Japonais qui viennent, sont payés très cher parce que ils sont capables de faire la réussite d'une récolte ou pas. Hein. Donc la greffe, il y a un taux de rejet important des nucléus, donc c'est extrêmement important d'avoir un bon greffeur. Alors, ça date du début du XXe siècle, c'est au Japon qu'un certain Mikimoto avait trouvé qu'on pouvait greffer et mettre en même temps le greffon. Donc ce sont des petites cellules, le greffon d'une donneuse, comme vous avez parlé, d'une petites cellules qui font de la nacre. Donc on met en contact des cellules qui font de la nacre avec un petit corps étranger et les cellules se développent et font la perle. Donc une perle, c'est à peu près 1 mm de nacre autour de ce qu'on appelle le nucléus. Hein. Mm-hmm. Le nucléus étant une bille de calcaire qui vient d'une moule du Mississippi en général. C'est une grosse moule du Mississippi qu'on travaille en forme de bille. Donc on fait des billes qui vont de 5 mm à 1 cm. Et quand on récolte la perle, on a deux solutions. Ou alors on récolte la perle d'abord, ou alors on sacrifie la nacre. Ou alors on remet un nucléus dedans pour faire une perle plus grosse au bout d'un an encore.
Quand vous dites on sacrifie la nacre c'est le nom de l'huître.
L'animal, voilà. Ouais, on la sacrifie, on la jette, hein, parce que ça se mange pas, sauf qu'on a vraiment faim, on peut manger un peu le muscle, c'est pas mauvais. Ou alors on remet un nucléus dedans pour refaire une perle, on referme la nacre, on la remet à l'eau, et ça refait une autre perle qui sera plus grosse évidemment, parce qu'on met un nucléus un peu plus gros, il y a un sac un peu plus gros. Et puis la troisième solution c'est de remettre la nacre à l'eau sans mettre de nucléus, et à ce moment-là, la nacre va continuer, l'animal va continuer à faire dans le sac perlier une petite bille qui, elle, ne sera pas ronde, elle sera un petit peu de forme bizarre. On appelle ça un keshi, ou perles baroques. Et c'est ce que vous avez souvent. Les femmes portent ça en bracelet. Ça fait des toutes petites perles qui sont très très jolies. Ouais. On appelle ça la perle baroque.
Et puis sinon, il y a évidemment ces perles que l'on obtient avec les nucléus. Le but, c'est d'avoir des perles les plus belles possibles. Nous nous trouvons maintenant devant un saladier de perles noires.
Un saladier de perles. C'est là qu'on voit que la perle noire, en fait,
elle est pas noire.
Elle est pas si noire que ça. Elle est de toutes les couleurs, de toutes les teintes. Hein, voilà, on en a une aubergine. Comme ça. Alors, c'est rare, en fait, qu'elle n'ait pas de défaut. Hein.
Mais celle-ci, par exemple, c'est une A. Ça, c'est une A, simplement parce que la surface occupée par les défauts est inférieure à 5%, si je ne me trompe le chiffre. 10%. Et en fait, là, il n'y a qu'une seule piqûre sur l'ensemble de la sphère. Donc c'est une belle classe A. Ah. Tiens, ça, c'est un défaut assez intéressant, c'est une comète. On a une piqûre et une traînée derrière.
Il y a une petite pointe sur celle-là.
Il y a une petite pointe et en fait, souvent, il y a un morceau de poil de byssus qui est resté coincé. Le byssus, c'est l'espèce de barbe qui sert à accrocher les moules. Et donc, quand un poil de byssus se met dans la cicatrisation du sac perlier, le sac perlier entoure, disons, ce poil de byssus et ça fait donc un prolongement comme ça.
C'est difficile, hein, Jean Proulx, d'obtenir une perle parfaite. Malgré tous ses efforts, déjà une partie des huîtres sont mortes après cette opération chirurgicale un petit peu quand même traumatisante. Et en plus, ces perles ne sont pour la plupart pas toutes parfaites. On a toute une classification, les A.
Oui, il y a une classification sur Dominique et Jean-Claude parlent de piqûres. Il y a aussi en forme de poire, il y en a qui sont cerclées. Il y a tout un... Et alors, comme moi aussi, j'ai connu ça après une bonne journée de travail et étudié. La perlicultrice amène un plein saladier de perles et vous dit, avec une bonne bière, bon, maintenant, il faut trouver les boucles d'oreilles. Donc, non seulement c'est difficile de faire une perle, mais d'en trouver deux de même taille, sans défaut, identiques et de même couleur, ça, c'est du travail.
Et pourquoi noir, d'ailleurs? Parce qu'on parle aussi des perles blanches, des perles noires. Ça dépend de l'huître?
Alors, là, on dit perle noire parce que le nom anglais, c'est Black Lip Pearl, c'est-à-dire la nacre aux lèvres noires. Parce que ça s'oppose à l'huître perlière japonaise, qui fait des perles blanches, les colliers de perles blanches, et tout ce qu'avaient vos mères, vos grands-mères. Hein. C'est qu'elle perd la l'huître Akoya, donc ça fait des perles blanches. Et puis surtout l'australienne, qui fait des perles dorées, hein, qu'on appelle ça la Pintada Maxima, c'est le nom latin, et c'est la South Sea Pearl, donc les perles de mer du Sud.
Et l'économie de la perle noire en Polynésie française se porte bien aujourd'hui?
Alors ça, j'ai pas trop d'informations sur actuellement. Je sais qu'il y avait beaucoup de difficultés parce que comme on produit beaucoup de perles, les prix baissent et donc c'est très très compliqué. En plus, c'est produit dans les îles des Tuamotu. Donc vous avez cité Ahé, mais il y a eu des atolls comme Takapoto ou Manihi qui ont été des gros producteurs de perles et donc ce sont souvent des petits producteurs. Donc c'est plus difficile pour un petit producteur au fin fond des Tuamotu de tirer un bénéfice de la perle noire.
Allez, dans un instant, on va s'intéresser aux différentes façons de manger les huîtres selon les cultures et les pays. Et puis, vous répondrez aux questions que les auditeurs vous ont envoyées sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. You feel like the president. Sweet power and influence. Oh, baby, we all see the obvious. You worked hard for your money and your confidence. But, baby, yeah, it's irrelevant. Oh, baby, yeah, it's irrelevant. Swim against the tide. Walk against the flow. Swim against the tide. Walk against the flow. Like cloud out the Mona Lisa.
at the closet, singing, turn on my speakers, and cloud out the moon on me, says, not to much at the closet, singing, swim against, against the top, walk against, against the flow, swim against, against the top.
President, sweet power and influence. Oh, baby, we all see the obvious. You worked hard for your money and your confidence, but baby, it's irrelevant. Oh, baby, it's irrelevant.
C'était Swim, chanté par Her sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Alors, la charnière de l'huître se trouve ici. Vous présentez votre couteau dans la charnière sans encore forcer. Ensuite, vous forcez avec vos doigts de l'arrière de la main et vous faites jouer votre couteau en forçant légèrement sur la partie droite de l'huître. Vous l'enfoncez, vous tournez le couteau dans l'huître. Vous le retirez presque, mais vous avez glissé le doigt entre les deux charnières. Vous grattez avec le couteau le dessus de l'huître.
Pour détacher le tendon.
Vous voyez, votre huître ouverte. Et elle n'est pas abîmée.
Nous étions en 1966, mais en fait, la façon d'ouvrir les huîtres n'a pas vraiment évolué, hein, j'imagine, depuis.
Ah bah moi, je ne fais pas du tout comme ça, d'ailleurs.
Ah bah alors, dites-moi, Marie.
Je ne la prends pas par la charnière, je ne mets pas la main directement si je fais ça. Moi, je la prends par le côté charnière vers moi, et à peu près à mi-distance entre la charnière et le bout de l'huître, et je cherche le pied, tout doucement. Mais vraiment tout doucement, sans forcer. Parce que l'huître, je ne sais pas, quelque part, il suffit de la chatouiller. Quand on a trouvé le bon endroit, elle s'ouvre.
Tout à fait, Marie.
Merci, ouais, Jean. Proulx, c'est Jean qui m'a appris.
Ouais, le spécialiste des huîtres confirme. Bon, on a donc deux techniques pour le prix d'une. En tout cas, l'étape de l'ouverture, une fois qu'elle est dépassée, qui doit avoir lieu, quelle que soit la recette, il faut ouvrir l'huître. Ensuite, la façon de cuisiner l'huître, ça peut changer un peu d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Nous, on les mange principalement crues. Ça peut se manger cuit aussi, Jean Proulx.
Ah oui, il y a beaucoup de pays où ça se mange même que cuit. Hein. Les États-Unis avaient une grosse tradition de manger les huîtres en conserve. Mm-hmm. Hein, tout le monde dit, les États-Unis, ils mangent les huîtres dans des boîtes de conserve, effectivement. Ils décoquillaient les huîtres et puis ils les conservaient dans des boîtes de conserve, quoi, stérilisées. Au Japon, il y a les deux. Hein, ils congèlent souvent la chair pour faire des préparations. Hein, au Brésil, j'ai vu, on les mange les deux. C'est un petit peu un mélange de l'anglo-saxon et puis du français. On va manger des huîtres crues certaines fois, et puis d'autres, on va les barder de béchamel, sauce à la tomate, à la menthe, et puis on va les congeler, puis ils les ressortent après pour les mettre au four. Donc il y a tout le monde peut faire ce qu'on veut avec les.
C'est moins léger du coup avec la béchamel.
C'est un peu lourd. Oui.
Ouais, on quitte le côté léger et peu calorique de l'huître. Beaucoup de questions pour vous de la part de nos auditeurs. Quels sont les avantages et les inconvénients des huîtres triploïdes, Marie?
Si vous voulez manger des huîtres en plein été au bord du bassin d'Arcachon, vous apprécierez qu'elles soient triploïdes, je pense, mais la plupart des gens ne sont pas informés. Je passerai bien la parole à Jean, notre scientifique.
Alors Jean, les huîtres triploïdes?
Oui, alors ce sont des huîtres un petit peu spéciales, hein, qui sont issues des travaux de la recherche. Hein. On donne toujours une comparaison, l'huître triploïde. Alors c'est pas un nom très agréable, hein. Dans le domaine de l'agriculture, ce serait la clémentine par rapport à la mandarine. Vous voyez, c'est déjà plus joli, quoi. Donc ces huîtres-là ont beaucoup d'avantages, effectivement. Ça a été mis en place dans les années 90 après cette recherche, et puis ça s'est bien développé. Ce sont des écloseries, donc des endroits où on fait des petites huîtres qui produisent ces huîtres qui sont stériles, donc elles font pas de produits génitaux, donc on peut les manger dans les mois d'été. Donc ça, oui, c'est un gros avantage.
Contrairement aux huîtres qu'on ne peut manger que dans les fameux mois en R, celles qu'on mange
alors
en hiver.
Oui, on peut tous les manger dans tous les mois, mais elles sont moins agréables à manger.
Une autre question de Marie. Les huîtres que l'on cueille sur le littoral breton sont extrêmement salées, nous dit Marie. Comment fait-on pour les dessaler et y a-t-il un risque à les consommer? Jean Proux.
Alors, on ne le dessale pas une fois que l'huître elle est sortie de l'eau. En général, elle est envoyée chez un expéditeur, et puis c'est comme ça, on retrempe pas les coquillages dans l'eau. On peut retremper certains coquillages pour les faire dégorger, par exemple, quand il y a du sable dans les pétoncles ou dans des palourdes, mais pour les huîtres, en général, elles sont très très bien nettoyées, le producteur fait tout son travail, donc elle a le goût un petit peu, l'huître, de la dernière eau qu'elle a vue.
Oui. Donc avant, en fait, il faut y penser avant de la cueillir. Si vous voulez, après, c'est trop tard.
Voilà, si vous voulez manger des huîtres bien salées, ben, vous allez demander plutôt des huîtres de Bretagne, parce qu'il y a pas de fleuve ou très peu de gros fleuves qui arrivent en Bretagne
ou
à la
bousigue.
Mer, donc les eaux sont salées. Ou alors des huîtres dans le riz, c'est
encore
ça, dans les tantos.
Ouais.
Mais si vous voulez des huîtres un petit peu, qui ont un petit peu un goût un peu plus doux, vous allez prendre des huîtres de Marraine ou des huîtres de Vendée.
Allez, dernière question très rapidement, c'est Coralie qui vous demande. Alors l'huître qui reste accrochée dans notre estomac, légende urbaine pour faire peur aux enfants, pour l'interrogation.
Ah, merci Coralie, j'adore cette question.
C'est vrai, on les gobe crues ces huîtres.
Mais non, mais c'est une question qu'on peut se poser effectivement, mais c'est pas une limace en fait, l'huître sortie de sa coquille, elle est pas bien. Elle rampe pas, elle s'accroche
D'accord.
pas. C'est par la coquille qu'elle s'accroche, donc tout va bien, vous pouvez... Puis surtout, voilà. On la croque pour sentir le goût.
Oui.
C'est pas
une
recommandé croquée, de l'avaler tout rond, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Une fois croquée, on est sûr, elle est
pas
morte.
Pas en état de remonter.
Merci à tous les deux. Je vous présente nos invités de la deuxième heure. Ils se sont assis en face de vous. Il y a Camille Maleroni, Claudia Hénonin et Clément Lepape. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ils sont jeunes, ils sont en cœur et ils ont bonne mine forcément puisqu'ils rentrent de voyage. D'ailleurs, ils repartiront certainement très bientôt en voyage puisqu'ils sont toujours en voyage. Ce sont des blogueurs voyageurs. Ils ont fait de leur passion pour le voyage leur métier. Vous allez donc nous expliquer de quoi est fait votre quotidien de voyageurs connectés. Claudia Hénonin et Clément Lepape sont plus connus sous le nom de Chloé Clem pour ceux qui les suivent sur leur blog Un Tour sur Terre, et Camille Maleroni, c'est l'oiseau rose. On vous retrouve donc après le flash. Merci Jean Proux, merci Marie Lescorat. Je rappelle le titre de votre livre, Les huîtres aux éditions Quae. Merci à vous.